La musique sud-africaine de la seconde moitié du XXe siècle doit énormément à ses artistes en exil. Mais beaucoup de l'élan créatif durant cette période turbulente est aussi venu de ceux qui sont restés. Malgré la répression sociale et culturelle, certains lieux sont devenus de véritables plaques tournantes pour les artistes locaux où le jazz et la subversion politique se mêlaient. La boutique de disques de Rachid Vali, Kohinoor, était un de ces points de rendez-vous à Johannesburg. Lors de ses passages en Afrique du Sud au début des années 70, Abdoulaye Ibrahim se plaisait à y faire un tour quand il pouvait. Un jour, raconte Vali, Ibrahim entre et lui dit « J'entends que tu fais du super boulot dans l'enregistrement. Pourquoi tu ne m'enregistrerais pas ?» Vali n'en croit pas ses oreilles. Atlantic venait à peine de sortir l'album « Midnight Walk » avec Elvin Jones, Hank Mobley et Dollar Brand. Après un moment d'hésitation, Vali lui répond en balbutiant « Je n'ai pas les moyens de te payer. » Le rire chaleureux d'Ibrahim qui suit lui fait comprendre qu'il s'agit de bien plus que cela. Ça marque le début d'une amitié fructueuse qui nous a offert, entre autres, Mannenberg, ce morceau emblème du Cape Jazz, devenu un hymne dans la lutte contre le régime d'apartheid. Je m'appelle Luxi Bright, et vous écoutez le second épisode de cette édition du programme Jazz Story sur Art District Radio. Nous sommes en 1971 et Abdoulaye Ibrahim est de retour au Cap, presque 10 ans après son départ pour la Suisse. Il poursuit toujours son expérimentation musicale, cherchant à lier sa sensibilité de jazzman aux traditions musicales, au chant et à la danse de son pays natal. Il enregistre 2 albums avec le label Soul Town de Rachid Vali, mais ceux-ci ont peu de succès, vendant moins de 2000 copies chacun. Les choses commencent à changer avec l'album qui suit, Underground in Africa. Cette fois-ci, Ibrahim collabore avec Osvieti, un groupe local qui connaissait un grand succès dans les clubs locaux avec leur reprise de morceaux de pop américain et britannique, et leur propre fusion dansante de jazz, de rock et de soul. Cela donne à la musique d'Ibrahim une forme d'accessibilité qui lui manquait peut-être jusqu'à présent. L'album vend bien, et le label se prépare déjà pour le prochain. Un changement de nom s'impose dans un premier temps. Quelque chose de plus approprié à l'esprit de l'époque. Ibrahim choisit Ashams, soleil en arabe. Symbole de son espoir, malgré le nuage noir de l'apartheid. En juin 1974, il retourne au studio accompagné d'un nouveau groupe de musiciens. Seuls 2 d'entre eux avaient travaillé avec Ibrahim sur le dernier album, Basil Kotze et Robbie Johnson. Ils passeront plusieurs jours ensemble au studio et produiront énormément de matériel, dont la plupart n'a jamais été utilisé. Un jour, vers la fin de la session d'enregistrement, Ibrahim s'assoit à son piano droit et décide de lancer une séance d'improvisation. Des punaises sont plantées dans les marteaux du piano afin de lui donner le timbre métallique associé au marabi. Les musiciens commencent à l'accompagner. Petit à petit, un groove se met en place. Et tout le monde sent que quelque chose de spécial est en train de se produire. Lorsqu'ils se sentent prêts, ils enregistrent. Et c'est ainsi, au cours de cette séance impromptue, qu'est né Mannenberg. retour à Johannesburg, et avant même la sortie du disque, Rachid Vali décide de jouer les acétates de Manenberg sur un haut-parleur devant les portes de sa boutique. Très vite, les gens commencent à se précipiter à l'intérieur pour demander qui joue, et, déçus de ne pas pouvoir se procurer le vinyle, s'attardent et dansent devant la boutique. On comprend pourquoi. Le morceau a une accroche irrésistible, sa mélodie, un rythme dansant, une énergie contagieuse et un mélange inattendu d'éléments pourtant familiers. Le marabi, le mbakanga, le gouma, tout ceci enveloppé dans une esthétique jazz. Vali sent qu'il vient de créer un tube. Le morceau de plus de 13 minutes sort plus tard la même année sur un LP intitulé Manenberg is where it's happening. Et, comme le pressentait Vali, le succès est immédiat. Il vend plus de 5000 copies la première semaine, et grâce à un accord avec Gallo Records, la plus grande maison de disques en Afrique du Sud, 40 000 sont vendus en moins de 6 mois. L'album réalise la meilleure vente de disques de tout le pays l'année de sa sortie et la suivante. Cela représente pour Abdoulaye Ibrahim une importante validation de son travail. D'autant plus qu'au sein de la communauté des métis du Cap, le morceau acquiert une signification toute particulière. Selon les mots de Robbie Johnson, le succès du morceau était une affirmation que notre culture inhérente est valide. L'on peut facilement percevoir les potentielles ramifications d'une telle validation dans le contexte de l'apartheid. Mais Ibrahim ne revendique pourtant pas une politisation de son art. Certes, son profil politique s'accroît au cours des années 80. Il exprime publiquement son soutien au Congrès national africain après les émeutes de Soweto en 1976 et jouera à plusieurs reprises lors de leurs concerts de bienfaisance. Mais il demeure globalement à l'écart, lui qui avait de nouveau quitté l'Afrique du Sud en 1975. Pourtant, si Ibrahim n'a pas cherché à faire de la politique, c'est en quelque sorte la politique qui est venue chercher Ibrahim. En effet, Manenberg connaîtra une seconde vie dans les années 80 et deviendra un hymne dans la lutte contre le régime d'apartheid. Ce nouveau destin est en partie le résultat des efforts de Basil Coetzee et Robbie Johnson, qui ont su en faire la pièce maîtresse de nombreux rassemblements contre le gouvernement. Lorsqu'ils jouaient ce thème-là, les foules s'extasiaient et des musiciens envahissaient la scène pour venir jammer. Cela représentait des moments d'intense solidarité et d'émotion, une forme d'extase collective politiquement chargée. Manenberg sera même directement associé à la politique de groupes anti-apartheid comme le Front démocratique uni, et Coetzee sera présent pour jouer le morceau lors du festival qui accompagne sa formation, en 1983. Selon les mots de Grassroots, un magazine citoyen dont les locaux étaient justement situés dans le quartier de Manenberg, le morceau était devenu le symbole de toutes nos épreuves. Aujourd'hui, l'on peut se rendre sur les lieux où Manenberg a été enregistré. On y trouve une sculpture abstraite faite de 7 tuyaux en acier inoxydable. Conçus par l'ingénieur Marc O'Donovan et l'artiste François Venter, les tuyaux ont été accordés afin de correspondre aux 7 premières notes de la mélodie emblématique. On y trouve l'inscription suivante. Faites passer un bâton sur ces tuyaux et vous entendrez Manenberg. Nombreux habitants du Cap se sont pris au jeu. Bien que la mélodie, ils la connaissent déjà par cœur.